talmudique. Éric de Luca, bonjour.
Bonjour.
Éric de Luca, vous êtes l'un des auteurs contemporains les plus lus et les plus traduits dans le monde. Vos livres ont cette particularité de défier les genres, comme on dit, défier la pesanteur. Entre romans, essais, poèmes, réflexions philosophiques et méditations bibliques, chaque page est une surprise et un émerveillement. Les éditions Gallimard ont eu la très bonne idée d'en réunir quelques-uns, ainsi que des textes inédits, en un volume dans la prestigieuse collection Quarto qui sort cette semaine. Vous avez appris l'hébreu et vous vous êtes lancé dans une lecture de la Bible que vous méditez chaque jour. Cette lecture vous a accompagné pendant des années sur les chantiers où vous étiez ouvrier maçon. Ces lectures sont devenues, au fil des ans, des commentaires qui émaillent et illuminent vos essais, récits et romans, dans un style inimitable et reconnaissable entre tous. Votre œuvre donne au texte du vieux livre, pour reprendre une expression du philosophe Jacob Rogozinski, que nous avons reçu la semaine dernière, à la fois une fraîcheur et une nouvelle profondeur, et surtout un souffle d'universalité. Votre vie se partage entre vos amis, la passion de l'alpinisme et les livres qui furent les premiers murs de votre chambre d'enfant, les livres de la bibliothèque de votre père. Éric de Luca, parlez-nous de votre père et de sa fameuse bibliothèque dans le ventre de laquelle vous avez grandi et de laquelle vous vous êtes nourri au cœur de la ville de Naples des années 50 et 60.
Mon père était un lecteur passionné. Il revenait à la fin de la semaine avec un paquet de livres qui s'ajoutait à sa bibliothèque, qui grandissait, et que ma mère mal tolérait. Dans les déménagements, beaucoup de cette bibliothèque a été perdue. Je me reste tout simplement des livres de lui que je garde et que je relis, parce que relire me relie à lui. Il m'offrait tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Il ne faisait pas des choix, des choses qui pouvaient être pas bon pour moi. Il n'y avait pas de livres pour enfants. Il n'y avait que les livres de lui et de ma mère. Et donc j'ai commencé à connaître le monde des adultes à travers l'antériorité des livres. C'était comme découvrir des faiblesses à l'intérieur des personnes qui étaient pour moi des géants et qui avaient des faiblesses. Ils étaient friables, ils n'arrivaient pas à être cohérents avec eux-mêmes. La première objection qu'il fait à un bébé aussi, c'est que c'est pas juste. C'est pas juste, c'est absurde qu'un gamin soit qu'est-ce que c'est juste ou qu'est-ce que c'est pas juste. Mais c'est la première objection. C'est pas dire c'est pas bon ou c'est pas beau. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il entend pour juste? Il s'aperçoit qu'il y a une manque de continuité entre ce qu'il dit, ce que les parents disent et ce qu'il arrive à faire. Ce décalage, ce trou entre les deux choses, fait avenir le soupçon que c'est pas juste. Donc, les livres de mon père m'ont donné cette possibilité de connaître le monde des adultes de l'intérieur. Et ça a été une chose terrible, parce que dans moi, il se produisait toujours un procès contre les adultes. Un procès que je ne pouvais pas exprimer, mais qui se produisait dans moi-même, dans une objection continue dans laquelle je posais la question et je devais me répondre. Et à la fin, il fallait la garder scellée sous silence. Alors ce dialogue antagoniste m'a fait grandir comme un obstacle, comme un adversaire. Tout doucement m'a fait devenir un adversaire. Donc c'était une éducation à la langue, parce que lire donne une précision de langue que autrement c'est impossible à attraper, et aussi un esprit de contradiction que je garde toujours dans toutes les choses. J'emploie souvent l'expression croyez-moi, non ? Croyez-moi, mais je ne crois pas. Par principe, je ne crois pas. Même si la chose est juste, je dois la vérifier d'abord. Je ne peux pas donner confiance à quelqu'un qui dit croyez-moi.
Donc aujourd'hui, vous êtes encore dans cette recherche de justice. Vous voyez que autour de vous, dans le monde, c'est pas juste. Et ça, vous l'avez appris dans vos lectures de votre enfance.
Oui. La justice, c'est un sentiment. C'est pas un code de loi. C'est un sentiment. Et souvent, le sentiment de justice se heurte contre la légalité. Un parlement peut bien faire une loi parfaitement légale, comme arrive dans mon pays, qui empêche à des sauveurs de sauver des gens dans la mer. C'est parfaitement légal, non ? Un pêcheur qui sauve un naufrage, donc il est incriminé pour aide à l'immigration clandestine. Et il lui enlève le bateau. Mais c'est une loi parfaitement légale, mais est exactement contre le sentiment de justice. Il faut la renier, il faut la rejeter, il faut la saboter. Ce qu'ils font inévitablement les personnes qui sont dans la mer quand se trouvent face à une question de vie ou de mort. Non, ce sont des lois qui instiguent à l'omission de secours dans la mer. Donc ce sont des lois injustes. Et pour moi, la justice est toujours un sentiment qui me fait réagir, qui me force à réagir. Parce que face à des événements, je ne peux pas rester chez moi, tranquille, et ignorer la question. C'est une chose qui s'est installée dans l'enfance. Et sur ça, je crois que je dois ça à ma mère. Ma mère me parlait de tout ce qu'elle voyait dans la ville de Naples. Toutes les misères, les coups, toutes les choses dures qu'il y avait dans cette ville. Et la voix de ma mère avait la force de prendre mes nerfs et les faire réagir par immédésimation. Elle disait, et je ressentais, d'avare. Mmh. Non, le mot d'avare, qui existe seulement en ancien hébreu, qui veut dire soit la parole, soit la chose accomplie. C'est une chose qui se produit exclusivement dans l'ancien hébreu. Donc, le mot est la chose accomplie. C'est pour ça que j'ai eu une fascination pour l'ancien hébreu. Parce que le mot a rejoint le maximum d'efficacité, de puissance. Un mot qui fait avenir les choses, qui les crée les choses. Pour moi, le davar de ma mère était le davar de moi. Ça veut dire, le mot de ma mère me faisait réagir avec immédésimation physique. Elle ne pouvait pas le savoir, la pauvre. Mais dans moi, se produisait cette manifestation d'identité physique. Et donc, c'est pour ça que les injustices, que les choses que je trouve injustes, attaquent mes nerfs, me forcent à réagir. Je ne peux pas régler la chose avec mon intelligence, ma philosophie. Non, je n'ai pas de philosophie. J'ai tout simplement une nécessité de réagir.
Que faisait votre père, Eri de Luca ?
Il était un commerçant de tomates, un agent de commerce.
Et votre mère ?
Ma mère était une femme au foyer. Mon père était un grand lecteur. C'était un lecteur passionné. Et il lisait tous les livres de la première page jusqu'à la dernière. Ce que je ne peux pas faire si le livre ne me plaît pas. Je le laisse tomber.
Et votre premier souvenir de lecture ?
Mon premier souvenir de lecture est la lecture de la voix de ma mère, qui m'avait lu pendant les fièvres de l'enfance, Les Trois Mousquetiers.
Trois Mousquetaires, oui.
Les Trois Mousquetiers du Mans. Alors, c'est ça ma première...
Alors, en vous écoutant, dans ce conflit entre le légal et le juste, je pensais à un texte talmudique que j'aimerais que vous commentiez éventuellement. Le Talmud dit, dans le monde futur, les oies viendront pour faire une réclamation devant Dieu en disant, les oies, c'est cachère. Mais de manger du foie gras, ça fait souffrir les animaux. Il y a du cachère, il y a du légal, mais c'est pas juste, parce que ça fait souffrir. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte du Talmud, Eri de Luca ?
C'est la contradiction avec laquelle on vit de tous les moments, tous les jours. On fait des compromis avec soi-même, on fait des compromis avec la société autour. On fait des compromis, mais il faut garder une loyauté envers soi-même. Et ça, c'est le fil à plomb qui me permet de choisir entre les compromis.
Alors, je pensais aussi à ce texte du Talmud dans le traité Nida qui enseigne au nom de Rabbi Simlai que l'enfant dans le ventre de sa mère ressemble à un petit carnet de feuilles plié avec une bougie au-dessus de la tête. Il apprend toute la Torah et quand il vient au monde, littéralement, quand il sort à l'air du monde, un ange lui donne une petite frappe sur la lèvre supérieure et il oublie tout ce qu'il a appris. Il passera sa vie à étudier pour retrouver l'immensité de ce savoir prénatal. Qu'est-ce que cela vous inspire, Eri de Luca ?
Ah, c'est une chose magnifique. c'est que l'expérience, tout ce que tu peux vivre et connaître, tu l'as déjà su. Tu l'as déjà su et tu dois te souvenir. C'est la découverte de la deuxième fois. La deuxième fois, c'est toujours plus belle de la première. J'oublie tout, non ? Régulièrement, j'oublie tout. Mais quand j'arrive, ma mémoire, que je n'ai pas la clé pour l'ouvrir, mais quand ma mémoire me donne un morceau, un fragment, ah là, je suis très heureux. Pour faire prolonger ce fragment, je l'écris. Je commence à écrire. J'écris une histoire parce que je me souviens tout à coup de ça. Et je ne crois pas d'avoir eu cet apprentissage prénatal qui touche exactement les enfants juifs. Donc je ne me souviens pas. Je découvre pour la première fois. Je suis encore un débutant. Je suis toujours un débutant. J'écris beaucoup de livres. Mais chaque livre, pour moi, c'est une expérience complètement nouvelle. Les livres d'avant ne me donnent aucune compétence pour écrire le suivant. Je suis toujours un débutant.
Quand vous commencez un nouveau livre, vous oubliez celui d'avant.
C'est oublié.
C'est comme une nouvelle naissance.
Si, si, c'est toujours une chose nouvelle, une affaire complètement nouvelle où je ne suis pas à l'aise. Il y a une phrase du Talmud qui dit qu'il n'est pas comparable qui lit le Tanakh 100 fois avec qui lit le Tanakh 101 fois. C'est comme ça. Chaque fois, c'est une immensité qui se réouvre et qui me permet de retrouver un fragment qui m'était échappé là, dans toutes les lectures précédentes. Ça m'aide le fait que je n'ai pas de mémoire. Hein. Ça, oui. C'est un avantage. L'idée d'avoir une mémoire formidable, comme avant certains élèves juifs, ça me terrorise.
Oui, je comprends. Juste pourquoi vous dites que quand on parle de ce texte du Talmud et de l'enfant dans le ventre de sa mère, vous dites que c'est une expérience de l'enfant juif. C'est peut-être une expérience universelle, cet enfant qui est comme un livre dans le ventre de sa mère. Et quand il sort, il oublie tout.
Il oublie tout ce qui regarde la Torah. Donc ça, c'est un enfant juif. Mais
oui, la Torah, c'est peut-être dans le sens de l'enseignement de manière générale. Un petit peu comme Platon parle de la réminiscence. Apprendre, c'est se souvenir. Peut-être on retrouve quelque chose. Quand vous lisez les textes de la Bible ou les textes du Talmud ou du Midrash, vous n'êtes pas juif, mais vous ne pensez pas que ces textes-là disent quelque chose de l'universel ?
De l'universel. Je ne suis pas compétent sur l'universel. Mais ce que je fais, d'abord quand je me réveille le matin pour faire mes lectures, c'est de me déplacer. Je ne prends pas ces pages pour régler mon actualité. Je fais exactement le contraire. Je m'égare dans cette époque lointaine, des endroits déserts. C'est un déplacement. Et en faisant ça, je sens que je fais quelque chose qui ont fait les générations avant moi. D'être contemporain des générations qui ont ouvert ces lignes, ont ouvert ces pages pour n'être pas là. Pour s'offrir un voyage, une distance. C'est exactement ce que je fais en montagne. Je monte et je me procure une distance. Et après, je reviens. Et après ma lecture, je ferme le livre et je rentre dans mon temps moderne, dans ma journée actuelle. Mais c'est un passage dans un autre temps et dans un désert. Et je pense d'être là avec toute une foule d'isolés qui ont fait la même chose.
Et qu'est-ce que ça vous apporte, ce regard éloigné, comme disait Lévi-Strauss ? Quand vous revenez dans le monde d'aujourd'hui, après être parti dans le monde de Moïse ou de David, et que vous revenez, comment vous voyez le monde de manière différente ?
Non, ce n'est pas différent. Je le vois tel quel. Je reçois le monde en napolitain. Ça veut dire que je reçois le monde avec une vitesse de reflet qui est typique du système nerveux napolitain. Donc je suis toujours prêt à réagir au monde autour de moi. Quand je suis dans le désert de la lecture, non. Là, je suis dans une promenade où j'écoute. Je préfère appeler l'écriture Mikra.
Mikra, qui est un mot en hébreu qui signifie « appeler », qui signifie la lecture à haute voix, et le terme aussi qu'on utilise pour dire les écritures saintes de manière générale.
C'est un mot officiel, c'est pas mon choix. Mais je préfère Mikra parce que Tanakh, c'est une espèce de recueil des parties de l'écriture. Mais Mikra, c'est la lecture avec la voix. Et quand je lis, j'ai aussi lu avec les lèvres. Je remue les lèvres, je bafouille le matin. Et ça, c'est comme marcher. Les lèvres sont mes pas dans le désert.
Hello, Dale. This is Louis, Dale. Very glad to have you back where you belong. You looking swell, Dale. I can tell, Dale. You keep growing, you're still growing, you're still growing strong. I feel the room swaying and the band's playing one of our old favorite tunes from way back when. So take a rap, fellas, or let an empty lap, fellas. Darling, never go my way again.
Louis Armstrong et Lou Dolly en public à Berlin en 1965. Je vous vois, Harry De Luca, taper sur la table et danser sur votre chaise. Vous aimez le jazz ?
Non, j'aime Louis Armstrong. Mais je ne suis pas dansé. Je suis incapable de danser. Mais quand j'écoute Armstrong, je danse à l'intérieur.
Alors, je vous ai entendu raconter l'anecdote de ce médecin qui avait proposé à Louis Armstrong de le soigner pour lui enlever la rugosité de sa voix. Et Armstrong lui a répondu « Non, mon ami, tu voudrais me ruiner. » Et alors la question que je vous pose, Harry De Luca, quelle est la rugosité de la voix d'Harry De Luca qu'il ne faudrait pas supprimer pour que son art continue à se déployer dans toutes ses fécondes facettes ?
Rugosité, je pense que s'agit d'une espèce d'un reste. D'un reste d'une histoire orale qui devient écrite. Les histoires orales ont des variations, sont beaucoup plus riches, non ? Mais quand on commence à écrire une histoire, bon, lui donne un format définitif. Et ce format définitif est un reste de cette histoire, de l'histoire orale. Mes phrases sont toujours courtes, le souffle nécessaire pour le dire, la respiration pour le dire. Et c'est comme au bord de la mer, il y a des rochers, non ? Et il y a de l'eau qui reste coincée parmi les rochers. Et ça, c'est l'histoire orale. Mais après, évapore, il reste ce résidu salin, blanc sec. Ça, c'est ma rugosité. Le résidu de la vie qui est évaporée.
Et pourquoi il ne faut pas vous l'enlever ?
Si on enlève ça, on enlève tout. On ne reste rien. Non, non, c'est du sel. Le résultat d'une évaporation. Évaporer la voix. Et rester l'écriture.
Alors j'aime bien que vous évoquez le sel, puisqu'en hébreu, le sel se dit melach. C'est l'anagramme de lechem, qui veut dire le pain, et de chalom, qui veut dire le rêve. Je sais que vous aimez bien partager le pain. C'est votre dimension de compagnon, l'étymologie du compagnon, celui qui partage le pain. Qu'est-ce que voudrait dire partager le rêve pour vous ?
Oh ben, je viens d'une ville qui partage les rêves, parce que il essaie d'extraire des rêves, des nombres pour jouer au loto. Vous savez qu'il y a des bureaux où celui qui a fait le rêve va à la,
au
guichet et il raconte le rêve. Ils font une conversation pour préciser exactement les nombres et on partage les rêves à Naples.
Pour avoir les numéros du loto gagnant.
Mais moi, je peux partager mes rêves parce que je ne me souviens jamais de mes rêves, sauf quand il y a une visite de mes parents. Alors, quand il y a une visite de mes parents, je me souviens d'avoir été visité par eux dans le rêve.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents, dans les rêves ?
Ils ne disent rien, mais j'ai la possibilité de l'embrasser à nouveau.
Quand on vous lit Eri de Luca, l'une des choses les plus précieuses, qui est peut-être rugueuse, mais pas nécessairement, vous venez de l'évoquer, c'est la ville de votre naissance, de votre enfance, la ville de Naples. Vous évoquez souvent cette ville, et j'ai trouvé dans un commentaire que vous faites sur la Akedat Yitzhak, sur le non-sacrifice d'Isaac, où Dieu dit à Abraham, « Karna, prends ton fils, s'il te plaît. S'il te plaît, se dit en hébreu « na », un mot que l'on retrouve dans « Oshiana », qui signifie, selon votre traduction en français, « allons, sauve ». En somme, écrivez-vous, « na » est un mot un peu napolitain et équivaut à notre « vas-y ». Et vous ajoutez avec humour que ce sont les deux lettres inscrites sur les plaques d'immatriculation napolitaine. Que représente cette ville pour vous ? Qu'est-ce qui disparaîtrait pour vous si on vous enlevait cette ville ?
Cette ville m'a donné d'abord la langue mère, parce que ma langue mère est napolitaine. J'écris en italien, mais l'italien c'est ma langue deuxième, la langue de mon père. Et donc, avec moi-même, quand je parle napolitain, je chante napolitain, je me fâche contre moi en napolitain, je m'insulte en napolitain, je dis que si quelqu'un veut m'insulter, doit m'insulter en napolitain, parce qu'en italien, ne me fait rien. Je n'arrive pas à me prendre les nerfs, l'insulte en italien. Donc, c'est une langue. Naples m'a offert son éducation sentimentale à travers les voix de ma mère. Ça veut dire qu'il m'a formé le sentiment de la compassion, le sentiment de la colère et le sentiment de la honte sur des exemples et des événements locaux napolitains, interprétés par la voix de ma mère. Donc, je dois à cette ville mon éducation sentimentale et mon système nerveux. Je peux dire donc que cette ville n'est pas une ville mère pour moi, mais c'est une ville cause et je suis un de ses effets.
C'est-à-dire ?
Je suis un effet de la ville de Naples. Un de ses effets.
Alors c'est beau ce que vous
expulsé,
dites, parce qu'en hébreu, l'enfant, c'est le même mot que le mot effet. Et la mère, c'est la cause. Il y a par exemple le mot toldot, ça veut dire les générations, les enfants. Et tolada, en hébreu, c'est l'effet d'une cause. Donc c'est vraiment beau ce que vous dites. Cette adéquation entre le fait d'être un enfant et d'être l'effet d'une cause. Mais il y a dans la Bible un commandement qui dit « Si par hasard tu rencontres un nid d'oiseau, c'est-à-dire un lieu où il y a la mère et l'enfant, tu dois renvoyer la mère avant de prendre l'enfant. » Et une des interprétations qu'on peut donner, en tout cas c'est celle que je donne, tu renvoies la cause pour prendre l'enfant sans la cause. Qu'est-ce que serait pour vous qui est l'effet de la ville de Naples, qu'est-ce que serait le renvoi de la mer ? Qu'est-ce que vous seriez sans cette mer Naples, sans cette cause ? Si on voulait vous rencontrer, vous prendre indépendamment de cette cause, Eri de Luca ?
Je ne m'imagine pas sans cette dénomination d'origine contrôlée. Il y a un vers de Brodsky, le poète Brodsky, qui dit... Au monde, il n'existe pas de cause, existe seulement des effets. Non, nous sommes habitués régulièrement à penser le contraire. Mais ça m'a forcé à réfléchir. Qu'est-ce que c'est un effet sans cause ? Et la chose qui m'est venue à l'esprit est la guerre. La guerre. On a toujours des causes pour la guerre. Mais quand tu te mets en face des destructions de vie et d'êtres humains, des déportations, des camps de concentration, quand tu es face à cette immensité du gaspillage et de la destruction, quelle cause peut prétendre d'être à l'auteur de cet effet ? Quelle cause peut justifier cet effet ? C'est évident que toute cause se réduit en prétexte. Évanouie, l'effet, la guerre est un effet sans cause, le moment où il se déchaîne. Et un autre effet sans cause est l'amour. des personnes se rencontrent et se produit le sentiment le plus fort qui existe en nature. La plus forte énergie. Et quelle est la cause? Quelle est peut-être la cause? Le fait qu'ils se sont rencontrés dans un bistrot, un bazar, une bibliothèque. C'est évident qu'il n'y a pas de cause qui est capable d'expliquer, de justifier, de devenir le responsable de ce sentiment. Donc, plus je réfléchis et plus je suis d'accord avec Brodsky. Au monde, il n'existe pas de cause, il n'existe que des effets.
Toute la littérature de Kafka est construite sur ce modèle. Un matin, Gregor Samsa se réveille après une longue nuit de cauchemar, transformé en un gros cafard. Pourquoi ? Comme ça, sans raison. De la même façon, dans le procès, un matin, on arrête Joseph K. Pourquoi ? Comme ça, sans raison. Kafka, c'est peut-être celui qui a pensé le sans raison, le sans cause, et peut-être ce monde terrible d'un monde où il y a des effets sans cause, il a peut-être pensé ce que vous êtes en train de nous dire, Eric de Luca.
Oui, c'est une des manifestations du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est un siècle énorme, où des millions de personnes se sont déplacées d'un continent à l'autre, qui a inventé la guerre moderne, qui est une guerre qui s'acharne sur les civils plutôt que sur les soldats, qui a fait changer le monde avec le format politique de la révolution. Les révolutions ont fait naître des nations indépendantes, ont fait écrouler des empires coloniaux. C'est un immense siècle. Et le siècle qui a incarcéré le nombre majeur de vies humaines dans les camps de concentration, dans les prisons. Donc c'est un siècle énorme. Quelle cause ?
Alors justement, ce sans cause est vraiment important à penser avec vous. Vous êtes traduit dans de très nombreuses langues. Cette traversée des frontières est quelque chose que vous appelez de vos voeux, non seulement pour les mots, mais pour les personnes. L'accueil du migrant est l'un de vos combats majeurs. Vous y trouvez l'un des commandements majeurs pour notre temps, le commandement d'amour biblique, on le connaît, mais il y a aussi ce commandement qu'on a vu d'ailleurs la semaine dernière avec le philosophe Jacob Rogozinski, « Tu aimeras l'étranger, Vafta et ta guerre », Eric de Luca.
La guerre, l'étranger, existe dans le Tanakh et est souvent accroché à la veuve et à l'orphelin. Dans la nécessité de tutelle, de protection et de justice rendue. Et il n'y a pas de clandestin dans l'Ancien Testament, non? Dans la Tanakh, il n'y a pas de clandestin. On n'emploie pas, il n'existe pas ce mot. Parce qu'il n'existe pas de clandestin. Il n'existe que dans la législature légale, parfaitement légale, mais injuste, même dans le vocabulaire, il n'y a pas de clandestin au monde. C'est l'épique majeure qui se produit dans mon temps. L'immigration de milliers et millions d'êtres humains sur la surface de la planète. Je viens d'un pays qui, dans l'autre siècle, a été millionnaire en expulsion de ce genre. Donc, nous avons su qu'est-ce que c'est se trouver à l'étranger, se trouver mal à l'étranger. C'est pas pour question de nostalgie, mais parce que les peuples nous repoussaient avec haine, avec des malédictions. Mais notre histoire démontre à nous que la volonté de s'implanter, la nécessité de s'implanter, est plus forte de la volonté locale d'expulser. Dans le tour d'une génération, voilà, on s'est planté comme des clous. On a mis des racines, on a changé de langue, on a fait naître des personnes dans le pays nouveau. L'Italie est le pays plus vieux du monde, après le Japon, pour âge moyen. Donc, nous avons besoin de renouveler les fibres de notre constitution génétique. Et c'est inévitable. C'est toujours comme ça que l'humanité a fait des progrès. La tour de Babel, non, qui a la dispersion du peuple, des gens qui s'étaient coincés dans un seul endroit, à faire une seule œuvre, comme une grande fourmilière. Ça, c'était la réduction à un, à une seule but. C'est pas ça, l'être humain. La divinité va disperser cette obstination, va la rendre féconde, va fertiliser l'espace du monde. Il dit sur Alpene Colares, sur les visages de toute la terre. va disperser la, faire venir la dispersion. La dispersion est fertilité, mais aussi souffrance. Parce que quelqu'un qui s'arrache de son lieu par nécessité, parce que toujours c'est une nécessité qu'on s'arrache de son lit, ça est une expérience de souffrance. Mais la souffrance est fertile.
Le désespoir est fertile, dites-vous souvent.
Le désespoir et pas l'espoir. L'espoir est le contraire de la fertilité. L'espoir ne te fait pas bouger, parce que te fait attendre que quelqu'un arrive avec une aide extérieure, avec un miracle qui se produit et tu restes là en attente. Non. Le désespoir est la force motrice qui te jette dehors, te fait jeter dehors et te fait être à la terre de la déroute que tu dois affronter.
Merci Éric De Luca pour cet échange passionnant que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine autour des thèmes de la langue hébraïque, de la traduction, du commentaire et des méthodes d'interprétation, de l'humour et encore et toujours sur votre passion de l'alpinisme. Que les lecteurs se réjouissent car les éditions Gallimard ont réuni un grand nombre de vos ouvrages, déjà publiés et certains inédits, dans un volume de la prestigieuse collection Quarto qui paraît ces jours-ci. Félicitations pour cette nouvelle parution. Je signale aussi que les auditeurs pourront vous retrouver sur le site d'Académ à l'occasion de la soirée qui eut lieu la semaine dernière au Centre Rachi et où nous avons tous les deux eu le plaisir de dialoguer ensemble avec Ruben Honigman autour des thèmes de la Tour de Babel, de la manne et du partage du pain. Merci encore Éric De Luca.
Merci à vous de cette occasion.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Guillaume Ledu, à la réalisation Alexandra Malka, Coltouve, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.